Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président de la commission indépendante sur les abus dans l'église, ancien vice-président du Conseil d'État et un magistrat membre de cette commission. Questions et réactions, vous êtes déjà très nombreux, très nombreux au standard 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Jean-Marc Sauvé, Antoine Garapon, bonjour.
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 Et merci d'être en studio ici à Inter ce matin. Au terme de 2 ans et demi de travail, la commission a donc rendu hier son rapport. Un travail colossal dont la matrice, et on va y venir, a été la parole des victimes. L'appel à témoignages que vous avez lancé a suscité 6500 appels ou prises de contact de la part de victimes ou de leurs proches. Vous avez conduit des entretiens approfondis avec 250 d'entre elles. On va revenir en détail, évidemment, sur le contenu du rapport, mais un mot d'abord de la réaction du pape François, Jean-Marc Sauvé, qui a dit hier son immense chagrin face à l'effroyable vérité. Est-ce que ces mots du pape vous semblent à la hauteur ?
Oui, je pense que cette parole du pape est forte, mais elle est effectivement à la hauteur de ce que nous avons découvert, c'est-à-dire des abus extrêmement nombreux, alors que l'on pensait que la société française et l'Église catholique en France étaient d'une certaine manière un peu préservées, par exemple, au regard de ce qu'est l'Église catholique dans les pays anglo-saxons, avec la conception d'une institution un peu assiégée, d'un îlot au milieu du protestantisme, ou encore à la différence, par exemple, de l'Église irlandaise, qui est totalement dominante dans la société irlandaise. Donc, on avait une espèce d'anticipation implicite, consistant à dire que ça pouvait être plus modeste. Et nous avons fait donc un dénombrement qui nous conduit à un nombre de 216 000, qui est très élevé pour les 70 dernières années.
Effectivement, les chiffres sont ahurissant, littéralement, ça fait quelques jours que vous prépariez les esprits en disant que ce rapport allait être choc, allait provoquer un choc dans l'Église, que ça allait être une déflagration. Ça l'a été, c'est bien le cas. On redonne les chiffres depuis 1950, estimation minimale. 2900 à 3200 pédocriminels ont pu sévir au sein de l'Église catholique. Chiffre tout aussi terrifiant sur la même période. Il y a donc eu 216 000 victimes d'abus sexuels venant de prêtres, de clercs ou de religieux et 330 000, c'est peut-être le chiffre qu'on retiendra si l'on intègre également les laïcs en mission, par exemple, dans les établissements d'enseignement catholique ou les mouvements de jeunesse. Ces chiffres que vous avez annoncés hier tous les deux défient l'entendement. Est-ce que vous auriez pu imaginer qu'ils soient de cette ampleur quand vous avez démarré ?
Ça, on ne l'imaginait pas. On ne pouvait pas l'imaginer. Et c'était, ça a été la grande surprise. On a commencé à le suspecter lorsqu'on a entendu des victimes. Je crois que ça a été le grand événement pour nous tous, le grand choc qu'on subit depuis déjà 3 ans. C'est de découvrir, par des témoignages vécus de manière tout à fait, latérale, simple, vis-à-vis des victimes. Et c'est ultérieurement qu'il y a une étude en population générale qui est une nouveauté, je crois qu'elle n'a pas, elle est sans précédent dans le monde et qui a confirmé ce chiffre absolument, absolument élevé.
Jean-Marc Sauvé.
Ce qui était impressionnant dans les auditions de victimes, c'est de découvrir à quel point les existences pouvaient être abîmées, pouvaient être blessées, et pouvaient être même détruites par les violences sexuelles. Et puis, la dernière découverte, ça a été une découverte portant sur le nombre, et ça, ça a fait l'objet en mars dernier, dans notre groupe, effectivement, d'une véritable sidération.
Antoine Garapon.
Les victimes m'ont dit, une victime a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, elle m'a dit, mais vous savez, ce qu'on a vécu est impensable. Et je crois que cette expérience de l'impensable, c'est celle que fait la société française aujourd'hui, c'est celle que fait l'Église, et c'est celle que nous avons faite malheureusement avec un peu d'avance. C'est impensable parce qu'une institution qui promet le salut, une institution qui porte des valeurs morales, produit l'inverse par ses membres déviants et par ses dysfonctionnements généraux. Et ça, je crois que c'est le choc, c'est le nombre, et c'est en plus l'impensable.
Ces histoires sont impensables. Vous le dites, Antoine Garapon, elles sont terribles parce qu'elles parlent de sexe, de sacré et de mort. Jean-Marc Sauvé, vous dites que c'est ce qui vous a marqué, c'est qu'aucune histoire, aucun témoignage n'est semblable à un autre.
Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y a une matrice commune. Par exemple, l'abus d'autorité, l'abus du sacré, l'abus de la paternité. Il y a une matrice commune et chaque histoire est radicalement différente. Mais à chaque fois, l'écoute, et nous avons écouté comme êtres humains, et on partage une commune humanité, on n'a pas écouté comme expert. Et cette écoute nous a permis, par exemple, dans un espace de 2 jours, dans une même ville, d'entendre 5 personnes, 6 personnes, raconter des histoires radicalement différentes. Et à un moment donné, d'ailleurs c'était tous des hommes, là je fais référence, à un moment donné, la gorge se noue, la personne ne peut plus parler, et des larmes commencent à couler, et avec une très grande retenue, une très grande dignité. Et il y a effectivement une émotion absolument considérable qui se dégage. Hier encore, après avoir remis le rapport, alors même que mon numéro de téléphone personnel n'est pas connu de tous nos compatriotes, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Mais voilà ce qui m'est arrivé il y a 60 ans !» et qui me parlent encore de blessures et de honte. Mais pourquoi la honte a-t-elle pu être transférée comme ça à la victime ?
Et pourquoi ? Donc,
c'est...
Il y a une victime qui...
Antoine Garapon.
Une victime m'a dit quelque chose que je trouve très convaincant. Elle me dit, c'est comme si le prêtre, le clerc, avait transféré sa culpabilité et sa honte sur moi, qui était paradoxalement la victime. Cette sorte de transfert mystérieux qui fait que... Et d'ailleurs, c'est ce qui les choque beaucoup. C'est-à-dire, ces prêtres n'ont pas été inquiétés. Parfois, ils n'ont même pas su que j'avais porté plainte. Il y a une très grande différence d'âge en général. Et donc, lui n'éprouve aucune culpabilité. Il n'a pas été inquiété par ses confrères.
Jean-Marc Sauvé, sur ces agressions au sein de l'Église, vous faites le rapprochement avec l'inceste. Pour quelle raison ?
Parce que l'inceste se déroule dans un contexte familial, avec la figure et la responsabilité du père ou du beau-père, très souvent. Bon, il peut y avoir un cousin, un grand frère aussi. Et dans l'Église catholique, il y a une mécanique qui n'est pas toujours très différente. C'est mon père. C'est quelqu'un qui porte l'image du père et qui abuse en réalité de cette autorité, de cette image du symbole du père. Et donc il faut être extrêmement attentif, notamment dans tout ce qui est l'accompagnement spirituel, l'enseignement de l'Église catholique, à ce qu'il n'y ait pas de dévoiement. Qu'il n'y ait pas de dévoiement, de l'engendrement spirituel ou de l'accompagnement spirituel qui peut se transformer en abus. Ce qui est très important, c'est que toute autorité, toute relation éducative peut être dévoyée. Et ça, on le voit partout, et en particulier dans l'Église.
On va essayer d'analyser les rouages de cette autorité abusée dont vous parlez dans l'Église, et la réaction de l'Église, et le déni de l'Église pendant longtemps. Mais encore une question pour l'un ou pour l'autre. Vous avez, pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, vous avez des grandes carrières, vous de haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, vous de grand magistrat Antoine Garapon, vous êtes des hommes aguerris, vous avez de l'expérience, et vous dites tous les deux que vous avez été ébranlé au plus profond de vous-même par ces témoignages. Vous dites tous les deux que vous avez eu besoin de psychologues, vous-même, pour être accompagné. Est-ce que vous vous attendiez à ce choc intérieur pour l'un ou pour l'autre, Jean-Marc Sauvé ?
Je m'attendais à ce que ce soit difficile, parce que la matière, quand on rentre dedans, on sait bien qu'on va découvrir une face sombre, une face cachée d'une institution, mais à ce point-là, c'est proprement impensable. Et comme l'a dit Antoine Garapon il y a un instant, l'Église catholique, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de salut. Et qu'est-ce qu'on voit ? Elle a accompli ou elle a porté par un certain nombre de ministres dévoyés une œuvre de mort. Et donc il y a une contradiction absolue entre le message porté, la morale et ce qu'on voit. Et cette contradiction là, au cœur de l'Église catholique, elle est bien pire que dans tout autre environnement social.
Antoine Garapon, vous avez beaucoup travaillé avec et sur les victimes. Nous vous avions reçu ici pour évoquer les victimes des attentats du Bataclan et du 13 novembre 2015. Quel écho, quel effroi les victimes de ces violences sexuelles-là ont-ils suscité en
Alors,
vous ?
Alors, ce qui change, c'est, même en tant que juge des enfants, j'ai entendu beaucoup de victimes, mais c'était à chaque fois, c'était à chaud. Et pour le terrorisme, c'est pareil, on est dedans. Là, ce qui a m'a beaucoup impressionné, beaucoup ému aussi, c'est que des personnes, au soir de leur vie, parlent de 30, 40 ans, 50 ans de souffrance, de solitude, de silence, de ce qu'on a appelé un empêchement d'être. C'est bien au-delà de la souffrance. Et ce qui nous a aussi beaucoup touchés, ce qu'on a découvert, c'est que le témoignage, c'était pas uniquement un élément pour notre rapport, c'était pas un élément de fait ou d'information. Le témoignage fait communauté entre les hommes. Et en quelque sorte, il nous obligeait. C'est un peu comme si les gens nous confiaient quelque chose. C'était le récit de leur vie, d'une vie comme une totalité d'errements, de difficultés immenses à vivre. Et parfois aussi, d'ailleurs, ils s'en étaient sortis. Et ils venaient chercher auprès de nous une sorte de validation, de confirmation de cette trajectoire épouvantable, mais finalement positive.
Jean-Marc Sauvé, vous avez cherché à comprendre les mécanismes institutionnels et culturels qui ont pu faciliter la pédocriminalité au sein de l'Église. Avez-vous compris les rouages et comment pouvez-vous nous les décrire ?
À mon avis, dans toute violence sexuelle, en particulier dans une institution, il y a une défaillance institutionnelle, un abus de l'autorité de l'adulte sur l'enfant. Et surtout quand il y a un rapport, notamment éducatif ou d'autorité. Alors dans l'Église catholique, il y a eu en outre un abus du sacré, un abus de la figure d'autorité du prêtre. On a vu également que certains enseignements tels que le principe d'obéissance avaient été, dénaturés en soumission et en assujettissement à la personne du prédateur. C'est aux antipodes, en réalité, de la figure du principe d'obéissance dans l'Église catholique. Et tout s'est produit comme ça. Même, l'Écriture. On a fait dire à l'Écriture le contraire de ce qu'elle dit. Alors, sur le plan de la morale sexuelle, on a vu à quel point une forme de tabou crée une sorte de point aveugle.
C'est-à-dire ?
Dès lors que ce qui touche à la sexualité est tabou, on n'arrive plus à voir et à nommer les choses. Il faut appeler un chat un chat. Un viol, c'est un viol. Quand on parle de gestes contraires à la chasteté, on ne sait plus de quoi on parle. J'ajoute une autre chose. Dans ce qui est illicite dans l'Église catholique, il y a beaucoup de comportements sexuels qui sont illicites et condamnés par la morale catholique, il y a de tout. Il y a des choses gravissimes et, par exemple, des relations sexuelles entre deux personnes consentantes, hors mariage. Et en nivelant la totalité de ce qui est illicite, on finit par perdre de vue ce qui est important. Oui. Et l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne n'est pas assez prise en compte dans la morale sexuelle de l'Église catholique. C'est une œuvre de mort, et ça, il faut que ce soit dit.
Oui, mais quand vous expliquez les éléments de la doctrine catholique ont pu expliquer l'ampleur de ces agressions, vous le dites dans le rapport, que vous citez ce que vous dites ce matin, c'est-à-dire l'excessive sacralisation de la personne du prêtre, la survalorisation du célibat, la vision taboue de la sexualité. Au fond, vous décrivez là, pardonnez-moi, mais des piliers de l'Église. C'est-à-dire qu'il faut les casser, ces piliers de l'Église. C'est ce que vous ne pouvez pas écrire, mais vous pensez ?
Ah non, je pense qu'il faut les approfondir. On a constaté un très mauvais usage par certains du discours spirituel. Par exemple, en forçant le pardon. Ça ne retire rien à la beauté du pardon et à sa puissance. Mais il faut simplement l'articuler à la justice. Et c'est cette articulation à la loi. Au droit de la République. C'est cette articulation que l'Église n'est pas arrivée à faire.
Jean-Marc Sauvé, vous vouliez réagir sur l'idée de pardon ?
Oui, au sein de l'Église catholique, on n'a pas su articuler, la miséricorde et le pardon des péchés avec la sanction des fautes et le respect de la loi.
C'est-à-dire que vous dites qu'ils savent gérer la notion de péché, l'Église sait parfaitement gérer la notion de péché, mais pas celle de crime.
Tout à fait, l'Église n'a pas compris ce changement que nous, pénalistes, dans la justice, dans la société, on a vu, c'est-à-dire le déplacement du centre de gravité, du péché, de la faute morale, vers la victime. Ils ont bousillé des vies, passez-moi l'expression, et c'est de là qu'il faut partir.
Et vous parlez de l'indifférence. l'interférence cruelle de l'Église, l'occultation, la relativisation, le déni. L'Église a été aveugle et s'est cachée derrière. Ce sont des brebis galeuses. Ce sont des brebis galeuses. Pardonnez-leur. Pardon, mais tout à l'heure, avant de rentrer en studio, Jean-Marc Sauvé, vous aviez un débat avec Thomas Legrand qui vous disait la solution, ce serait la fin du célibat du prêtre. Vous êtes contre cette idée?
Ce que la Commission considère, ce n'est pas seulement une opinion personnelle, c'est que le célibat par lui-même n'est pas la cause de ce qui s'est passé. Et on a plutôt l'intuition que dans un certain nombre de cas, des prédateurs, des pervers, ont opté pour cet état de vie, pour cette condition, afin d'accéder aux enfants et de pouvoir en abuser. Le célibat mal vécu, et ça peut arriver, peut engendrer tout autre chose que des agressions systématiques sur des mineurs de 11 à 12 ans. Il faut se poser la question.
C'est pas parce qu'ils sont célibataires, les prêtres, c'est parce qu'à l'origine, c'était des pervers qui choisissent la prêtrise pour pouvoir accéder aux enfants.
Vous prenez, dans les grandes affaires criminelles qui se sont produites au sein de l'Église, certaines très connues comme Prena, d'autres qui sont passées en dessous des écrans radars de la société médiatique, vous avez des grands prédateurs qui ont, à leur passif, plus de 100 victimes. Et parfois plus de 150 victimes. Ça, ce sont des réalités hallucinantes qu'on découvre.
Antoine Garapon, et puis on file au standard. Vous vouliez réagir.
Alors, à côté de ça, ce qu'on a découvert aussi, c'est la grande misère ou solitude affective des prêtres. Il faut plus s'occuper des prêtres. Il n'y a pas que des pervers. Il y a aussi des gens qui ont une vie ingrate finalement, et c'est pas parce qu'ils sont au milieu de tout le monde qu'ils sont nécessairement soutenus. Et donc une des recommandations que nous formulons, c'est de plus s'occuper des prêtres, de leurs conditions affectives, et ça va avec ce que disait Jean-Marc Sauvé sur la fin du tabou. Oui, la sexualité est une dimension de l'homme, y compris des prêtres, et toute la vie.
Allez, au standard, c'est Bernard qui nous attend. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tout le monde. Dans les années 60, je faisais partie de l'aumônerie du lycée Carnot et il y avait des sorties organisées par une sorte de patronage. Et un jour, un des adultes encadrants, donc pas un prêtre, m'a pris sur ses genoux et, je vais le dire franchement, a mis sa main dans sa culotte, dans ma culotte. Et autant vous dire, je ne suis jamais retourné sur ses genoux et je ne me considère pas vraiment comme une victime, même si cet acte était répréhensible. Et moi, ma question est plutôt par rapport au problème de la réparation. J'ai entendu hier la principale victime du père Prena, la radio, celui qui a créé une association, et sa façon de demander réparation était comme une vengeance. Je veux me venger. Et est-ce que la réparation financière correspond au préjudice aux criminels que ces gens-là ont subi? Je comprends pas l'argent par rapport à ça.
Merci.
La souffrance, elle est d'ordre psychique, psychologique, elle est grave, elle est même dramatique pour certains. Moi, je peux pas en dire autant pour moi. Je vous dis, je suis pas retourné sur les genoux et basta. Bon.
Merci Bernard pour cette question qui est à la fois technique et métaphysique. Mais Jean-Marc Sauvé va vous donner des éléments sur les réparations. Comment ça se répare?
Je pense qu'il est important effectivement de souligner que dans les violences sexuelles dans l'Église catholique, plus d'un tiers, 34%, ont été commises par des laïcs, ce qui est le cas de Bernard. Alors maintenant, la question de l'indemnisation ou de la réparation en argent, c'est une question qui vient tout à fait en bout de chaîne. Le vrai problème et la vraie question, c'est la question de la reconnaissance. C'est la reconnaissance de ce qu'ont vécu les personnes. Ces personnes se sont très longtemps, très, très souvent aussi, emmurées dans le silence. Elles ont été empêchées de vivre, empêchées d'être. Leur existence a été bousillée. Et donc, il y a besoin d'avoir une instance créée par l'Église, mais indépendante de celle-ci, comme notre commission finalement, pour recevoir d'une certaine manière les demandes des victimes qui le souhaitent et qu'on puisse dire, autrement que par un jugement pénal qui viendrait 40 ans après, qui se traduirait probablement par des relaxes ou par des acquittements, qu'on puisse dire « oui, vous êtes victime ». Vous avez souffert. Après, Les victimes qui souhaitent une réparation, on peut s'y engager.
Mmh. Un mot, Antoine Garapon, sinon on retourne au standard.
Oui, ce qui est très intéressant, ce que dit Bernard, c'est qu'il a résisté, il s'est défendu, il est en paix avec lui-même. Nous, on a vu des victimes qui n'ont pas réussi à résister et qui passent 40 ans à se demander mais pourquoi je n'ai rien dit, pourquoi je me suis laissé faire. Et c'est ça qui les taraude. Et donc, il ne faut pas inverser le rôle entre l'argent et une parole qui reconnaît et qui permet de sortir de ces atermoiements intérieurs.
Et en voilà une qui décrit parfaitement ce que vous êtes en train de dire, Antoine Garapon. Bonjour Yannick.
Bonjour, merci.
Bienvenue.
Merci. Je ne sais pas de quoi dire d'autre tellement je suis ému d'entendre M. Sauvé et avoir entendu tout ce qui a été dit hier dans le rapport. Moi, je suis une victime. J'ai participé au rapport parce que j'ai témoigné. Et donc tout ce qui est dit par rapport à la famille, donc moi mes parents ont occulté l'histoire. Moi j'ai été victime de 15 ans à 20 ans par deux moines. Aujourd'hui j'ai 49 ans. Par deux moines en Seine-Maritime. Quand je l'ai enfin dit, j'avais 32 ans et ma famille et les moines se sont arrangés pour que ça se sache pas du tout. Ils ont fait leurs arrangements entre eux et moi c'est seulement à 45 ans que j'ai porté plainte. Bien sûr il y avait prescription, mais ce que je voulais dire c'est que on souffre beaucoup en tant que victime, on fait souffrir énormément notre entourage et là je sais pas sans émotion que je parle de ma famille, mais ma famille que j'ai construite, pas mes parents que je ne veux plus voir. Et le rapport aujourd'hui et depuis hier, j'ai l'impression de ne plus être anonyme. Et ça, c'est énormissime. C'est une forme de reconnaissance. Et voilà. Merci, Monsieur Sauvé. Merci.
Et merci à vous, Yannick, pour cette intervention et cette franchise. Pardon, Jean-Marc Sauvé.
Oui, ce que dit Yannick rejoint une expérience que nous faisons depuis plusieurs jours avec des personnes qui nous disent que au fond notre rapport est réparateur, quoi. Et c'est l'idée que des histoires singulières, des histoires douloureuses, des histoires blessées, maintenant sont réunies dans un ouvrage sous une même reliure pour faire histoire. Et je crois que pour les victimes, ça a une force réparatrice, restauratrice, très importante.
On a sur l'application beaucoup de gens qui disent Luc Wouters, réalisateur, nous dit-il, j'estime le nombre de victimes plutôt à 500 000 vu le nombre de noms déclarés. Comme moi, dit-il, demander pardon, c'est facile quand on a refusé de voir pendant si longtemps, malgré les alertes et les affaires étouffées qui sont nombreuses. Autre auditeur nous dit que son père, né en 14, a dit 3 semaines avant sa mort comment il avait été abusé pendant qu'il était enfant. De cœur, il était athée et haïssait tout ce qui touchait à l'Église. Antoine Garapon, un mot sur l'ensemble de ces témoignages.
Ce qui est très intéressant, ce que dit Yannick, c'est l'expression « leurs arrangements entre eux ». Et ça, c'est très souvent revenu, je pense, à une victime qui avait plus de 70 ans, qui avait été abusée dans un collège, et les jésuites, en l'occurrence, avaient fait le nécessaire. Et il m'a dit « ils ont fait le nécessaire, ils ne m'ont jamais rien dit. Et ça fait 60 ans que j'attends qu'ils me parlent. » Et donc, les arrangements entre eux, c'est ça qui doit cesser. Qu'il y ait des transgressions, oui, bien sûr, toutes les institutions en connaissent, mais qu'on associe, qu'on dise et qu'on tienne compte des victimes.
Un grand merci à tous les deux, Antoine Garapon, vraiment. Jean-Marc Sauvé. Merci d'avoir été là sur France Inter et merci pour le travail que vous avez mené ces deux dernières années.
Merci.
8h46, merci aussi aux auditeurs qui parlent toujours avec une immense franchise à l'antenne d'Inter. France Inter.